Bonjour. Eh bien, il serait temps vraiment de remettre les choses dans le bon ordre. C'est pas une constitution qu'on ne veut pas pour l'Europe, mais c'est cette constitution qu'on ne veut pas pour l'Europe. Alors, il faudrait poser les questions dans le bon sens, hein. Encore une fois, eh bien, c'est, on essaye de nous avoir d'une façon vraiment détournée et vicieuse. Alors, attention, vigilance, vigilance, et répondons à la bonne question. Voilà. Merci, bonsoir à tous.
Bonjour, aujourd'hui jeudi 10 mars 2005, jour de grève et surtout une hallucinante leçon de journalisme et de linguistique à l'attention des élèves désœuvrés par la scandaleuse fermeture de leurs établissements scolaires. Ouvrez grand votre téléviseur sur la première chaîne et écoutez le maître Jean-Pierre Pernaut. Objet de l'étude, la modalisation, c'est-à-dire la manière dont un locuteur signifie sa présence et ses jugements dans son discours. Écrivez, soulignez en rouge, les modalisateurs sont les verbes ou expressions qui traduisent la perception, le doute ou le jugement de celui qui parle. Application, exemple, Jean-Pierre Pernaut parle ce midi du privé qui était censé, vous soulignez censé en vert, s'associer au mouvement social. Exemple 2, à Toulouse, M. Pernaut parle d'une manifestation qui a réuni, dit-on, vous soulignez dit-on, toujours en vert, 20 000 personnes. Et enfin, le meilleur pour la fin. Exemple 3, à Marseille, Jean-Pierre Pernaut affirme, je cite, 100 000 manifestants selon les syndicats et 19 000 selon la police. Visiblement, l'un des deux se moque de nous. Fin de citation. Vous pouvez utiliser le surligneur tellement c'est gros. Révision annexe, un syndicat est du genre masculin, une police du genre féminin. Conclusion, quand JPP dit l'un des deux, c'est plutôt au syndicat qu'il pense. Silence dans les rangs, fin du cours. En résumé, dit-on, censé, l'un des deux se moque de nous. Voilà des modalisateurs tout à fait parlants sur le côté qu'a choisi le présentateur du 13h de TF1. Et pour lui, au moins, c'est clair, on sait de qui il se moque. Merci de votre attention, vous pouvez ranger vos affaires. C'était Vincent, prof de français à Tours. Salut.
Oui, bonjour. Je suis en train de commencer à remplir ma déclaration d'impôt. Et donc, je vous lis le troisième paragraphe de la petite lettre d'Hervé Guémard. Parce que nous mesurons l'importance de votre effort, nous voulons que 2005 soit l'année des contribuables. Nous prenons devant vous l'engagement d'œuvrer pour que chaque euro dépensé en votre nom soit un euro réellement utile au service du pays et pour l'avenir de nos enfants. Bah dis donc, on l'aurait bien cru. Bon allez, au revoir.
L'émission d'hier est une éloge de la suppression de la peine de mort. Mais la prison reste une honte pour notre société et 2 à 5 personnes décèdent encore dans les prisons françaises aujourd'hui tous les mois, ce qui fait une moyenne approximative de 110 personnes par an. Ce que je sais, c'est que beaucoup de ces personnes qui meurent en prison sont souvent innocentes et je pense qu'il faut élever un monument commémoratif à tous ceux qui sont morts en prison depuis la suppression de la peine de mort. La liste à graver sur la pierre serait longue et si l'on daignait se pencher sur les circonstances de leur décès, il est clair que nous aurions une vision claire que ce pourquoi ils ont pu être condamnés ne méritait en rien la peine de mort. Au revoir.
Oui, salut, c'est Eric de Bordeaux. Essayez de vous tenir droit, monsieur Raffarin, on vous regarde. La rue vous regarde. Salut.
Bonjour à l'équipe. Ben voilà, c'est 14h, il y a la manif à Valence. Il y a du monde, c'est bien, il y a du monde, il fait beau, il y a vachement de vent, mais c'est bien, il y a du monde. C'est rassurant. Allez, bisous à tous, bonne manif.
Allez, on envoie. Salaire, emploi et surtout pouvoir d'achat, voilà les 3 mots d'ordre de cette journée de mobilisation syndicale, à l'exception de la CGC. Tous appellent à débrayer et à manifester en France aujourd'hui. Il y avait plusieurs milliers ce matin à Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse et Nantes, mais aussi Limoges, Valenciennes, Lyon-sur-Mer et Perpignan. Impossible.
Combien étaient-ils les preneurs d'otages hier à travers toute la France? 575 000 selon la police, plus d'un million selon eux-mêmes les preneurs d'otages. En tout cas, on va les entendre aujourd'hui jusqu'à 18h dans la basse. Si j'y suis, mobilisation sociale, contestation sociale. Hier, on était à Marseille. et on ne vous a rapporté quelques souvenirs, quelques cartes postales sonores de Marseille. En fait, on n'était pas tellement là pour cette formidable manifestation qui a vraiment éclairé, illuminé Marseille hier, mais on était là-bas pour suivre des rencontres entre des intellectuels israéliens, palestiniens et français, dialoguant avec des jeunes des quartiers de Gardanne, d'Aubagne, d'Aix-en-Provence et de Marseille. Et c'est cette confrontation, ces rencontres que nous vous raconterons dans les jours prochains dans la base où j'y suis. Il s'agissait de Lila Chahi, de Michel Warchavski et de Dominique Vidal qui ont dialogué avec donc ces gens des quartiers, ces jeunes très souvent des quartiers de ces villes. Mais aujourd'hui, c'est la manif, c'est la mobilisation, c'est la contestation sociale. Vous avez compris que notre Premier ministre est attentif. C'est pas mal, hein ? Il est attentif. C'est quand même déjà beaucoup. 1 million était dans les rues hier à travers notre bel hexagone. Et aujourd'hui, bah, le résultat, c'est quand même... On n'a pas perdu notre temps. Le monsieur Raffarin est attentif. C'est jusqu'à 18h. C'est dans la basse si j'y suis.
Quand même, hein. On résiste. Les chômeurs recalculés, les rémistes ramassés, et permis en sacrifier, la convention y en a assez. Et on se baisse,
c'est l'intersyndicale de la FNAC. Là, on peut dire que c'est à perte de vue la canebière devant nous. Là, on voit la manif, on voit pas le bout. Mais alors, en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une sorte de brume dans le haut de la canebière là, et on voit pas où commence la manif. On sait qu'elle finit ici puisqu'on a le port de Marseille derrière nous. C'est un temps superbe. C'est les grandes journées de Marseille, quoi. Les drapeaux rouges, les banderoles, tous les syndicats sont là. Un temps absolument magnifique. On va essayer de comprendre ce qu'ils veulent, ces gens-là.
Ça va, Mathieu ?
Ah, salut !
Ça va, Mathieu ? Tu es venu, hein ? T'as des chez toi, ils sont
Jean Corbeau.
Ben moi, je pense que je vais voir s'il y a le syndicat français des artistes en tant qu'intermittent du spectacle. Mais également avec la ville d'Aubagne, ville de paix, où il faut que tu viennes absolument. Ah, tu étais avec Leïla, non?
Oui.
Ah, ok, d'accord. Eh bien là, on peut dire actuellement, pour cette journée solaire, que les rebelles planétaires battent le pavé sur le bitume afin de transmuter ce monde d'indifférence en civilisation de solidarité.
C'est drôle parce qu'on a fait des reportages sur l'hôpital de la Timone, ils sont là. Et ça, c'est Nestlé, on a fait des reportages aussi sur eux.
Certain qu'une journée comme aujourd'hui, bah, ça nous donne un petit peu du baume au cœur, ça c'est sûr et certain. Je sais pas, je crois que la comptabilité elle est de plus de 100 000 personnes dans les rues de Marseille. Donc je pense que pour nous c'est important. Donc c'est vrai que ça nous donne beaucoup de choses. Ça veut dire que bon, bah, en plus vous dire on est applaudi, tout le monde nous soutient.
Oui, on se relève un peu, mais il y a un désespoir. Mais le désespoir ne veut pas dire abattement. Hein. Le personnel est très touché et tout ce que l'on voit ici nous remonte toujours le moral. C'est le ciment ici, le ciment, c'est le service public et le service privé ensemble dans la rue. Mais on est là aussi pour défendre les 35 heures, les améliorer à notre manière, pas à la manière du gouvernement. On est là pour nos salaires, demander à ce qu'il y ait un Grenelle des salaires pour débloquer cette situation figée. Donc tout ça cimente les salariés autour et nous réchauffe à nous.
On n'en veut pas. Vous, c'est CGT Métallo, hein?
Non, là, c'est Virgin.
Vous, c'est CGT Sidérurgie.
C'est pas pareil.
D'accord.
C'est, déjà, c'est le même dans les ans, mais c'est pas pareil.
D'accord, d'accord. Pourquoi vous êtes là ce matin?
Là, bah, déjà pour les 35 heures. Aujourd'hui, nous,
pour les 35 heures.
L'augmentation de l'argent, parce que le patron aujourd'hui fait de sacrés bénéfices. Et on n'en a rien, juste pour les actionnaires et pour le patron.
Combien vous gagnez-vous?
Moi, réel, 15 000. Non, disons 1 500 euros.
1 500 euros, 13e mois.
On n'a pas 13e mois.
Alors,
je suis fondeur, déjà sur le plan.
Fondeur. Combien d'années?
Ça fait bientôt 30 ans.
30 ans,
la CNC.
1500 euros.
1500, ouais, c'est ça.
C'est ça.
Plus, alors, aujourd'hui, le patronat, il nous oblige de travailler une semaine gratuite, 39 heures gratuite pour les postés. Je parle de nous, les postés.
Postés. Ouais.
39 heures gratuites, disons, un cycle gratuit, le patron, les journaliers, 28 heures de plus, gratuit. Il faut travailler plus.
D'accord.
Ça. Nous, on manifeste pour ça. Plus, nous, nos travaux pénibles, on demande la retraite à 50 ans. Je donne un exemple, comme aujourd'hui, juste pour rigoler, une bête, un chien, on multiplie par 7. Et nous, par exemple, ça fait 30 ans, je travaille posté, je demande, on multiplie par 2, ça fait 60 ans. C'est comme on travaillait 60 ans.
Ça dégraisse dans votre branche, ça licencie ou ça tient?
Non, ça tient, mais comme licenciement indirect, j'appelle ça indirect. La personne qui s'en va, qui quitte l'usine, là, il n'est pas remplacé. Le mec est décédé, il n'est pas remplacé. On a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite, ils ne sont pas remplacés. Donc, ça, pour moi, c'est
les. On n'embauche pas de jeunes, on n'embauche pas de.
Ils embauchent de temps en temps un petit, mais même les jeunes aujourd'hui ne veulent pas rester parce qu'avec leur salaire, avec le niveau, ils ne veulent pas rester. Même s'ils restent, parce que pour l'instant, ils restent, mais ils cherchent ailleurs. C'est ça.
C'est lourd, ça?
Non, je crois qu'il fait 4,5 kg, je crois. Non, pas. Par contre, il y en a beaucoup qui sont morts pour ça, avec ça. Parce qu'avec l'amiante.
Il y en a qui sont morts avec le manteau que tu portes là. Ouais.
Peut-être moi aussi, je suis dans le coup. Mais j'ai passé des radios, des scanners, mais mes radios sont encore bloquées. Ils sont chez le docteur. Je n'ai pas de les chercher.
Qu'est-ce qu'il y a dans tes radios?
Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais je n'ai pas de les chercher. J'ai passé des radios, le scanner. J'ai peur. Parce que j'ai des amis qui sont morts en portant ça. L'amiante, parce qu'on a fait tout l'amiante sur le corps. On dormait avec, disons, on transpirait avec la chaleur.
À l'époque, on ne se plaignait pas de l'amiante.
Ah, peut-être. Il y a pas que, il y a le manteau, il y a le produit qu'on travaillait avec, les machines.
Le manteau, il est en amiante, là, non?
Non, celui-là, non. Celui-là,
avant, ils étaient en amiante. C'est-à-dire que sur tes 30 ans de boulot, là, t'as porté un manteau en amiante pendant des années.
Voilà. Il n'y a pas que le manteau, il y a les produits qu'on travaille avec aussi. Et c'est ça. Même aujourd'hui, il y a des maladies. Sur le béton, il y a le béton, les entreprises vous amènent pour le travail. On a des outils. Il y a beaucoup de choses. On a des soufres, il y a beaucoup de choses, des maladies à l'usine. Moi, j'ai un copain qui s'est embauché à peu près avec moi, 44 ans, il est mort. La cause, le patron là, ils disent c'est la cigarette.
Voilà, les métallos des Bouches-du-Rhône se mobilisent pour gagner les 35 heures, l'emploi, les salaires, les conditions de travail. Métallurgie. La valeur ajoutée du travail, c'est nous. Le capital ou le travail, quand on trouve toujours les mêmes thèmes. Hein. Ok. Courage.
Et allez, on va saluer une importante délégation de la chrysalide Marseille-Gaëtan de Mouk.
Mais d'abord, on manifeste pour la défense du service public. Tout ça,
c'est un résultat de la politique néolibérale pour laquelle on s'oppose. Et la Constitution, quand la Constitution sera votée, si elle est votée, eh ben, ça sera ça. Enfin, ça sera ça tout le temps. Et on n'aura même plus besoin de défiler parce que ce sera anticonstitutionnel de défiler.
Je vais la mettre en noir, le camarade.
Et puis on organise à Aix un festival de cinéma sur la fabrique de l'information, la fabrique de l'opinion, du 9 au 16 juillet. C'est Attac fait son festival, c'est la suite de la manifestation qui a lieu à Paris chaque année. Et donc là aussi, on invite tout le monde à venir. Nous, parce que en fait, ce qu'on pense, nous, c'est qu'il ne faut pas scinder les catégories entre services publics, entreprises privées et intermittents du spectacle et les gens qui ne travaillent pas et les retraités. Que c'est vraiment un problème global et qu'il faut relier tout ça. Et que c'est ça qui est très important et c'est vraiment pour ça qu'on est là.
Je peux intervenir ici par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que toutes les politiques qui sont menées, c'est pour se mettre en conformité avec ce qu'il y a dans les traités. Et dans la Constitution, toute la partie 3, c'est justement d'intégrer tous ces traités. On nous demande notre avis, on ne va pas se gêner pour le donner. Et on va dire non à cette Constitution, surtout contre cette partie 3.
Oui, bonjour. Je suis Jean-Claude de Saint-Étienne. Voilà, je suis chauffeur routier et comme vous avez pu le constater, aujourd'hui les chauffeurs routiers n'ont pas bougé. Alors je vous appelle pour vous dire pourquoi. Premièrement, il faut que vous sachiez qu'on travaille à mi-temps, c'est-à-dire qu'on travaille 12 heures par jour. Deuxièmement, et bien sûr les 35 heures, on ne connaît pas. Et si on n'a pas bougé aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'en général, on ne nous aime pas. Hein. Et pourtant, on représente une sacrée force. Je voulais juste vous dire ça, parce que j'avais envie de vous le dire, c'est tout. Voilà. Au revoir.
Ben écoutez, madame, on est là parce que on est là d'abord tous ensemble, dans le même but, contre la décentralisation, contre ce gouvernement qui n'arrête pas de nous persécuter, de nous harceler. Donc,
ils comprennent rien. J'aimerais que ça aille plus loin que ce que c'est aujourd'hui. Il faut s'arrêter complètement. Parce que le gouvernement est autiste. Il ne comprend rien.
Et pour que le gouvernement montre qu'il vous a entendu, il faudrait qu'il fasse quoi ?
Qu'il démissionne.
On parle de baisse du pouvoir d'achat, pratiquement. Dans votre quotidien, c'est comment ?
C'est réel. C'est réel. Quand je passe à la caisse de Carrefour ou quoi que ce soit, le même panier n'est plus le même prix. Pourtant, j'achète exactement les mêmes choses.
Alors du coup, on fait des petites économies sur quoi ?
On fait des économies sur rien. On peut pas. Moi, trouvez-moi quelqu'un qui fait des économies, je ne trouve pas, moi. Pour faire des économies, il faut gagner un peu plus que ce que coûte la vie.
Alors quoi, on s'endette ?
Non, il faut pas, justement. Parce que l'endettement, c'est justement ce qui fait que les personnes n'arrivent plus à exiger ce qu'ils ont besoin. Parce que le gouvernement tient les gens pour pas qu'ils se noient, juste. Et on leur donne des petits avantages pour pas qu'ils se noient. Parce que s'ils se noient, là, il y a une révolution. Alors on les maintient un peu en surface.
Et vous dites aujourd'hui le panier de la ménagère, hein, comme on dit. C'est plus.
C'est une honte, comme ils calculent. Attendez, quand vous voyez qu'ils rentrent dans le panier de la ménagère, un ordinateur, je n'en achète pas tous les jours, moi, d'un ordinateur. D'abord, j'en ai un, il est très vieux. Et j'ai même pas Internet, alors. Et on met dedans un frigo. Un frigo, vous n'achetez pas un tous les jours, hein. Vous en achetez un, quand vous attendez qu'il casse pour en acheter un deuxième, hein. Je veux dire, ça devrait même pas rentrer, ça, la télévision, tout ça. Sûrement que les prix, ils ont baissé. Les prix des ordinateurs ont baissé. Beaucoup. Ça rentre dans le panier ménagère. Comme ça, sûrement que le.
C'est bon, si tout a baissé, alors ça va.
Non, mais c'est des trucs qu'on n'utilise pas. Qu'on n'achète pas. Moi, j'achète le beefsteak tous les jours. Ça baisse pas.
Ça augmente ?
Bah, attends. Attends, avec toutes ces filières qu'il y a. Moi, j'achète beaucoup. J'essaye d'acheter souvent aux producteurs de légumes. Encore la chance, nous, où j'habite, d'avoir un peu des paysans qui font des légumes.
Vous habitez où ?
J'habite à côté de Marignane, à Gignac.
Merci, madame. Hein. Bon courage.
Merci.
Entre 500 000 et 1 million, il y a à travers toute la France et là, à Marseille, parce qu'on se trouvait à Marseille, un ciel magnifique, lumière, soleil, sur la Canebière et dans les rues et les avenues de Marseille, une grande journée marseillaise. Hier, et on était avec Olivia Gesberg, avec Antoine Chao, et voilà les échos, les images de cette journée.
1, 2, 3. Raffarin formaté, nos salaires, Raffarin formaté, nos salaires est cassés.
Toi, tu es élu de ?
Je suis élu de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Élu de gauche.
On avait compris.
Voilà. Hein. Je fais ce qu'au fond les 100 000 personnes, je crois, qui sont présentes aujourd'hui, à peu près.
100 000 à peu près.
Hein, enfin, je donne ça, c'est peut-être les chiffres qui me font plaisir, mais je pense qu'il y a énormément de monde. Et je fais comme eux, je manifeste à la fois contre les. Pour des revendications ponctuelles, la question des 35 heures, la question de la réduction de la fonction publique, mais de manière plus large, c'est un ras-le-bol. Parce qu'en déambulant dans la manifestation, en discutant avec les gens, ce qui était au centre, c'était pas seulement les 35 heures. J'ai trouvé un peu de tout. En discutant avec des personnes âgées, c'était les retraites. D'autres, c'était le logement. Des jeunes, c'était le travail. Donc c'est un ensemble de revendications, un ras-le-bol qui s'exprime. Alors ce qui m'interroge, c'est le débouché politique, parce qu'en réalité, c'est les syndicats qui ont mobilisé fortement et toutes leurs revendications sont d'ordre politique. Donc ça doit interroger la gauche quand même.
Le passage de la revendication du beefsteak, du ras-le-bol à l'action politique, l'histoire.
À l'action politique, mais dans la vieille histoire, il y avait des partis qui étaient les débouchés de ces revendications politiques. Alors aujourd'hui, je constate que les syndicats jouent ce rôle. Et tant mieux, c'est peut-être pas le rôle, mais tant mieux de leur présence. Et ça m'interroge un peu quand même. Tu vois, 100 000 personnes présentes sur des revendications politiques, mobilisées par le biais syndical. la CGT sur la ville de Gardanne, il y a eu transmission. Hein, c'est des jeunes de 25 ans qui en sont responsables. Et il y a quelques jours, la CGT a fait un piqué de grève devant la centrale thermique à Gardanne. Et la direction a porté plainte. Donc ils ont été embarqués par la police, une journée, garde à vue, ainsi de suite. Donc voilà, il y a une bataille forte quand même qui se met en place. Et puis il y a des jeunes qui s'investissent. Avec ceux qui misaient sur l'essoufflement d'une génération, je leur dis qu'ils se trompent.
On n'est pas fatigué, l'appareil est foutu, le pouvoir est dans la rue. L'appareil est foutu, le pouvoir est dans la rue. L'appareil est foutu, le pouvoir est dans la rue. L'appareil est foutu, le pouvoir est dans la rue.
Je suis pas d'accord avec ça alors, donc...
Et pourquoi vous êtes pas d'accord?
Parce que c'est pas dans mes principes, c'est tout. Je suis d'idées politiques tout à fait autres que ce que
pendant ce temps-là, donc, à Paris.
C'est tout. Voilà, je suis venu en spectateur.
Vous exerciez quel métier avant?
J'étais à la SNCF.
Mais vous conduisez des trains?
Non, j'étais cadre dans les bureaux, quoi.
Vous êtes pas d'accord?
Ben non, j'ai le droit de ne pas être d'accord, hein, de toute façon. Non, là, il y en a marre, puis c'est un amalgame de toute revendication, je vois, c'est n'importe quoi, quoi. Il manque plus que ce qui est pour le sida, il manque plus que... Qu'est-ce qui manque? Je suis contre les amalgames de tout, c'est pas net, quoi.
Mais peut-être que c'est un ras-le-bol général, c'est voilà tout. Bon,
une certaine partie de la France, hein. C'est pas général, hein.
Laquelle de partie de la France, à votre avis?
Partie, oui, ouvrière, partie... Les travailleurs, quoi, c'est sûr, hein. Mais ça a toujours été, ça, hein. Hein, depuis Giscard, même du temps de Gaulle, il y en aura toujours, puis après Chirac, ça sera... On a beau mettre un socialiste ou un communiste au pouvoir, il y aura les mêmes manifs dans les rues, hein, ça c'est sûr, hein. Ça peut pas être autrement. Il faut vivre comme ça, puis c'est tout, hein.
Avec des travailleurs mécontents, alors.
Mais ils seront toujours mécontents. Vous leur donnerez 2000 euros par mois, ils en voudront 3000. Voilà, ça c'est sûr, hein. Ce que je dis, il y en a peut-être beaucoup qui pensent comme moi. Tout ça, à quoi ça sert? Ils ont perdu leur journée, les pauvres malheureux, là, aujourd'hui. Parce que Raffarin ne bougera pas, c'est sûr. Et puis, il n'y a pas d'autre politique. Il a raison, c'est tout, je le maintiens. Il faut y aller, il faut changer. Voilà, il faut y aller, c'est tout.
Oui, mais pour l'instant, on renvoie déjà... Allez, on envoie.
Voilà, je téléphone aux auditeurs de la Bastille Jussy pour leur signaler que le 18 mars aura lieu une grande journée d'action pour la défense de la psychiatrie publique. En ce qui concerne Marseille, il y aura une manifestation qui aura lieu devant l'agence régionale d'hospitalisation au 141 avenue du Prado. J'invite tous mes collègues infirmiers, médecins, toutes les personnes qui sont sensibilisées à la défense de la psychiatrie publique à venir à se mobiliser parce que on considère que c'est un petit peu la reconquête d'un champ qui a été déserté depuis très longtemps et il est nécessaire que la santé mentale soit prise en compte de façon plus évidente dans notre pays. Voilà, je vous remercie.
Si, c'est l'UMP vend notre cul sur les trottoirs libéraux. Ben non. Franchement, en 5 ans, ça a été l'enfer. Bon, ben là, ça va servir à pas grand-chose de manifester. faudrait tous les mettre au bout d'une pique. Moi, j'ai que ça à dire. Non, non, mais ça fait partie du même mouvement qui décide de dire, bon, les Français, ils travaillent pas assez, ils sont trop bien payés, ils font que râler, et pendant ce temps, le gouvernement se gave. Moi, j'ai bossé dans le social, mais j'ai aussi bossé à l'usine, j'ai bossé dans pas mal d'endroits, et partout, j'ai bossé aussi dans le tertiaire, et partout, c'est la même logique, c'est-à-dire, on demande tout le temps d'y aller plus, de se motiver, de s'impliquer, et on n'a pas de récompense au niveau des salaires.
Vous avez quel âge ?
30 ans.
Vous appelez comment votre prénom ?
Sébastien.
Et alors juste, la moyenne des salaires, vous avez gagné jusqu'ici, c'était quoi ?
J'ai gagné entre le SMIC jusqu'à 1 200 € net. Et quand j'ai gagné 1 200 € net, je faisais 80 heures.
Vous aviez fait des études ?
Oui, je suis à Bac plus 3. En parlant de la NPE, même la NPE, ils commencent à parler de privatiser. Ils ont fait des expériences dans le Nord, à passer ça à des boîtes privées qui ne sont pas plus efficaces, voire moins efficaces que la NPE. Et on continue à privatiser joyeusement. Parce qu'ils vont faire des thunes même sur les chômeurs. Fabuleux.
Alors là, avec le chômage, vous touchez quoi ? Vous avez le RMI ?
Ah non, non, je suis encore indemnisé par les ACEDIC.
Ça fait combien à peu près par mois ?
Ouais, là, moi, je touche 750 € par mois. Ouais, c'est ça, 750 € par mois.
Ça suffit pour vivre ?
Je n'ai pas de gros besoins.
Vous avez un appartement ?
Oui, en colocation, parce que tout seul, je ne pourrais pas l'assumer.
Ça coûte combien ?
Ah, ça coûte cher. Surtout depuis le boom de l'immobilier à Marseille. Moi, je paye 450 €.
Ah oui, sur les 750 que vous gagnez.
Voilà. Bon, je touche aussi, pour être honnête, je touche 100 € d'APL. Ce qui fait que j'ai de quoi manger, je me plains pas.
Hein. Il reste 400 € pour vivre, en gros.
400 € pour vivre.
Sans compter les notes d'électricité,
sans compter
les factures. Les mutuelles.
Ah non, j'ai pas de mutuelle et j'ai pas les moyens. Quand on est chômeur, on n'a pas le moyen d'avoir une mutuelle. Et encore, on a la chance à Marseille d'être dans une ville qui est pas chère.
Mon prénom, Michel.
D'accord. Vous êtes au Parti communiste, je suppose.
Oui, je suis un docker également. Je ne suis pas en activité parce qu'ils m'ont fait partir dans les mesures d'amiante. Je suis donc depuis 2 ans, pas retraité parce que je suis trop jeune pour ça.
Vous avez quel âge ?
J'ai 54 ans et ils m'ont fait partir parce que je souffre, j'ai eu des zones pleurales dues à l'amiante. Voilà. Je me bats quand même pour la constitution, pas tellement pour moi, mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Parce que le problème, c'est qu'ensuite, pour changer une virgule de cette constitution, contrairement à certains partisans du oui qui disent qu'on pourra toujours après l'améliorer, ben, il faut l'unanimité des 25 pays actuellement, peut-être 30 demain, pour changer simplement une virgule.
Là, vous parlez de vos enfants, vous avez le sentiment qu'il y a vraiment une baisse du pouvoir d'achat aujourd'hui ?
Absolument. Moi, je crois que c'est la première fois dans notre histoire, dans notre pays, où il y a une génération qui vit plus mal que la précédente. Avant, ce sont les enfants qui aidaient les parents. Et là, malheureusement, les parents qui sont obligés d'aider leurs enfants. À 30 ans, le gars, il n'est toujours pas installé économiquement et professionnellement. Et c'est très difficile de faire des projets avec des emplois précaires, avec les RMI, etc., etc. J'ai mon fils qui est docker, mais qui ne fait que 15 jours par mois, parce qu'il a un contrat de 15 jours par mois sur le port. Et ma fille qui a un contrat précaire.
Elle est aussi dans les docks, votre fille ?
Non, ma fille, non. Elle est dans l'animation d'enfants, c'est-à-dire dans les centres aérés, etc. Voilà, travail partiel, quoi, temps partiel. Puis j'ai des petites filles, donc je suis grand-père aussi. Et si mon fils il est gêné, il faut, c'est nous qu'on habille à la petite, etc. C'est nous qu'on paye, parce qu'elle va à l'école privée, parce qu'on n'a pas trouvé d'école suffisamment près où il y avait de la place. C'est nous qu'on paye, y compris la cantine. Bon. Je veux dire, j'invente rien, quoi. C'est...
Et comment on fait pour financer tout ça avec 14 000 francs par mois?
Eh bien, on se sacrifie nous-mêmes. Hein. Mais en fait, c'est rien de très original, ça. Hein. Je pense que c'est une très grande majorité de travailleurs aujourd'hui qui sont dans cette situation-là.
On va laisser passer les marins-pompiers de Marseille qui font toujours beaucoup de bruit. Voilà,
c'était comme ça à Marseille, c'était comme ça un peu partout en France hier. Et si on comprend bien, ça va pas s'arrêter aussi facilement que certains le souhaiteraient. Mais hier, dans cette manif, il y a une image, une chose qui m'est revenue en mémoire, que j'avais complètement oubliée, et je vais en parler aux amis marseillais. On m'a raconté, mais il y a longtemps déjà, ça m'est revenu hier, on m'a raconté que dans les années 60, le général de Gaulle, le président de notre République, faisait, dans les années 60, 65, 66, je n'ai pas la date ni l'année, faisait des visites comme ça dans les villes, dans les grandes villes de France. Et il a fait une visite à Marseille. Et on m'a dit, mais est-ce légende ou réalité, c'est vous qui me le direz peut-être, que de Gaulle était arrivé dans le port, le vieux port de Marseille. Il arrive et évidemment la foule cerne le bassin et tout autour du bassin. Et lorsque de Gaulle fut au milieu de ce bassin, on m'a raconté que les travailleurs, parce qu'en fait ce n'était que des travailleurs qui étaient autour du bassin, se sont retournés et auraient montré leur cul au général de Gaulle. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Est-ce qu'on m'a raconté une histoire? Ce serait pas du tout impossible. Mais de grâce, dites-moi ce que vous savez là-dessus. Parce que je suis sûr que si c'est une vérité, évidemment, il va y avoir une photo. Au moins, il va y avoir un journaliste qui était dans le coin qui a pris une photo, ou n'importe qui a pris une photo, même si c'est dans les années 60. Alors, si jamais vous savez quelque chose là-dessus, ça m'amuserait beaucoup de le savoir. On continue donc cette journée ensoleillée marseillaise.
Une flamme sacrée nous montre du doigt tout, et la France enivrée salue ton ventre mou. Ernest Antoine Célière, élève ton talent, tu passes la salière et tu réponds présent.
Mettre les gens au chômage, oh que c'est pas beau. comme de tristes personnages se partagent le fromage. Oh, oh, que c'est pas beau. Oh, que c'est pas beau.
Ben, on râle parce que la loi Fillon, quand on la lit et qu'on lit entre les lignes, ben, on voit toute la tendance de marchandisation de l'école. On introduit tout simplement une école au service du patronat. Et ça, on le refuse. Nos élèves, dans les quartiers pauvres, ont besoin aussi de culture, d'une culture commune qui n'est pas un petit socle minimal pour en faire des ouvriers corviables, exploitables à merci. Voilà.
Voilà. Tu enseignes où ?
Je suis... Salut ! Je suis dans le 3e arrondissement de Marseille, dans une école maternelle, et je reçois des petits... 90% de petits Comoriens et de petits Arabes et qui ont besoin de l'école maternelle qui risque de disparaître d'ailleurs, qui est sur la Sellette. Ils ont besoin de cette école pour avoir ce que les petits Français privilégiés ont à la maison tous les jours. Moi, je fais de l'informatique avec mes petites sections de maternelle de 3 ans parce que j'estime qu'ils ont le droit aussi d'avoir des choses que nous, nous permettons à nos enfants. Voilà. Merci d'être venu à Marseille.
Filons dans le rang, chantons son cœur la mélodie du bonheur. Filons nous juste à ses fions et nos enfants feront de nos pères leur labeur. Filons dans le rang. Nos enfants, devenir le capital humain dont cette poignée d'hommes a besoin. Merci.
Moi, je pense que actuellement le clivage gauche-droite, il a totalement vécu. Et le clivage, le seul pertinent actuellement, c'est plutôt ce qui détermine ceux qui pensent que toutes les activités humaines doivent être régies par les critères marchands, et puis les autres qui ont encore dans le cœur et peut-être dans l'esprit un petit peu d'humanisme et qui essayent de mettre en place autre chose. Et des gens qui n'auront plus du tout, c'est pas qu'ils n'auront plus la parole, mais ils seront complètement muselés par la partie 3 du traité constitutionnel qu'on s'apprête, sur lequel on va se prononcer bientôt. Et moi, je suis absolument terrifié par cet enjeu-là. Et je pense que les gens, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils aillent mettre un bulletin dans l'urne pour marquer leur désaccord envers cette politique libérale qui va à rebours de l'histoire humaine. C'est un contresens historique et humain. Contrôleur du trafic aérien. Et j'ai vécu les affres de la vision marchande, notamment du contrôle aérien, au travers des travaux de la Commission européenne. Et je sais à peu près de quoi je parle dans ce domaine-là. Et je sais que ces gens-là ne considèrent les choses que dans des critères totalement marchands et quantifiables. Il n'y a rien d'autre qui va dans leur mode d'appréciation.
Derrière nous, il y a hamburger américain, hot dog, saucisse, merguez, andouillette et kebab.
Marseille.
Pogna Pasqua, Marcella. Pogna Pasqua. Pogna Pasqua Marcella,
il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres, le beau jingle dans vos grandes oreilles, l'œil est sans vous, plantiez-vous le voilà. On l'adore chez tous les pandores, les CRS de l'huile les caresses. On va rêver de tous les poulets, la matraque, la plage fanée, les menottes au radiateur, on va bientôt déguster. Hey. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe. il est comme ça, notre Nicolas. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer les chanteurs. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Attention les gars, la Nicolas. Attention les filles de Sarkozy. Attention les gars, la Nicolas. Attention les filles de la Sarkozy. À quoi pense-t-il? Aurait-il des ambitions? Mais que fait-il? Il s'approche de Matignon. À quoi rêve-t-il? Veut-il se faire désirer? Mais où va-t-il? Il s'approche de l'Élysée. Il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des Orfèvres. Le brushing est dans longues grandes oreilles, l'œil est sombre, planqué, où le voilà. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le chardeur. Quand il voit un blague, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre migra.
Donne des papiers.
Va-t-on le faire quand il est chaud? C'est pas la Marseillaise, hein. Ça c'est l'international, pour ceux qui n'auraient jamais entendu cela. S'il y en a quelques... c'est possible, hein? C'est possible. C'était en tous les cas hier à Marseille. On était avec Olivia Gisberg, avec Antoine Chao et avec Pascal Pascariello pendant ce temps-là à Paris. Et puis on va finir cette heure avec un message d'un auditeur, plutôt quatre messages qu'un auditeur vous a laissé il y a quelques temps, qu'on trouve absolument adorable, mais on cherchait une occasion, un moment pour les passer. Et ben voilà, il nous reste quelques instants. C'est une magnifique histoire racontée en quatre fois par un auditeur de la basse Jiffy. Faut pas que ça se reproduise, parce que ça, c'est nous qui perdrions notre boulot si vous continuez comme ça et si vous aviez autant de talent que celui-là.
Il y avait deux pays, l'un habité par les Yannatros, l'autre par les pas assez. Les Yannatros étaient gros et pressés. Les pas assez avaient beaucoup d'enfants et étaient maigres. Les Yannatros habitaient dans des démocraties. C'était écrit dans les lois qu'ils n'avaient jamais lues. Pour savoir qu'ils étaient riches et heureux, ils allaient regarder chez les pas assez. Les Pasassés habitaient dans le pays des Pasassés. Il était tout plat et il n'y avait rien au bout. Quand quelque chose allait de travers, tous les Pasassés entouraient le chef qui écoutait, puis décidait, et ils rentraient chez eux tranquillisés. Tous les Pasassés se reconnaissaient entre eux, même de loin. Quand ils s'apercevaient, ils se complimentaient. Chacun avait son signe, ici un gros nez, l'autre un pied de travers, un autre louché, parfois une main avec trois doigts. C'était très varié. Les Pasassés avaient tous le même nom. Ils s'appelaient Content quelque chose. Le chef, c'était Content gros yeux. Sa femme, Contente trois bosses, parce qu'elle avait une forte poitrine et un gros postérieur. Et la famille de Content gros yeux, qui habitait près du vieil arbre au milieu du village, avait trois enfants. Contente petite dent, Content grand sot et l'aîné, Content gourmand. Même le plus petit Pasassé savait que les Yannatros étaient obligés de travailler tout le temps. Quand les Yannatros arrivaient en vacances chez les Pasassés, ils montraient bien qu'ils étaient épuisés. Et les Pasassés comprenaient parfaitement qu'ils avaient trop travaillé. Les Pasassés se disaient que le pays des Yannatros devait être très grand et qu'il fallait qu'ils portent beaucoup de choses très loin. Dans le pays des Pasassés, on avait construit de belles maisons qui restaient fermées toute l'année, mais que l'on ouvrait tout grand dès les premiers grands jours de vacances que ces pauvres Yannatros étaient obligés de prendre. Chez les Yannatros, quand venaient les vacances, on voulait partir vers le soleil. On était obligé de fermer les usines et le commerce s'arrêtait. Beaucoup de y en a trop étaient mécontents s'ils ne partaient pas en vacances avec tous les autres, car ils étaient obligés d'aller chercher très loin de leur grande maison et acheter leur pain. Chez les pas assez, quand arrivaient chez eux au soleil beaucoup de y en a trop, on courait de tous côtés pour satisfaire les moindres désirs d'y en a trop en vacances. Quelques pas assez étaient désignés pour accueillir les gros y en a trop, ouvrir les maisons, servir à boire, porter des bagages. Chaque fois, les pas assez s'étonnaient de tout ce que ces pauvres y en a trop étaient contraints d'apporter avec eux. Ils le racontaient le soir chez eux, ils essayaient de compter toutes ces valises, ces sacs, tout ce qui semblait nécessaire au y en a trop pour se plonger dans l'eau et dormir dans un hamac. Il arrivait que leurs femmes, leurs enfants ne les croient même pas. Aussi, quand les y en a trop repartaient, tous les pas assez se massaient au bord de la seule route qui traversait leur pays pour constater que tout était vrai. En effet, les y en a trop étaient gros de ventre et de sac. Ils étaient rouges aussi. Leurs genoux pliés, constataient les fragiles pas assez. Ils en concluaient soit que les y en a trop dormaient à l'envers sur le ventre dans leur hamac, les jambes pliées, ou que leur sac était trop lourd, c'est pourquoi ils se précipitaient pour aider. Les y en a trop parlaient fort et avaient des noms bizarres et imprononçables. On n'arrivait pas à les reconnaître. Des hommes, il y en a trop, étaient dodus, comme des femmes. Et des femmes, il y en a trop, s'habillaient comme des hommes. Aussi, chez les pas assez, on appelait les y en a trop des vites, parce que c'était le mot qu'on entendait le plus souvent. Entre eux, les pas assez, ils racontaient les aventures des vites hommes et des vites femmes, qui croyaient danser en écoutant du bruit qui sortait de drôles de petites boîtes. Bref, les pas assez était fier de ne pas ressembler aux gros y en a trop, parce que eux savaient danser.
Dieu vous garde, Seigneur Guillaume, et on qu'est-ce qu'il dit des nouvelles? Disons que dans ce reste vécu, nous dire que n'était pas les lignes de l'entente attendue. Elle vient descendue. Dieu vous garde, Seigneur Guillaume,
merci à tous, merci aux Marseillais, merci à Olivia Gesbert, Pascal Pascardiello, qui était dans le coup de ce reportage. Merci aux y en a trop et aux pas assez. Lundi, on part en Israël à la rencontre des chrétiens sionistes, c'est-à-dire ces chrétiens américains, ces chrétiens évangéliques qui viennent en Israël soutenir Israël, soutenir le grand Israël. Et en cette année 2005, où l'on va célébrer la séparation de l'Église et de l'État, où l'on va à nouveau beaucoup parler de laïcité, ce sera intéressant de voir pourquoi nos grands-parents, nos ancêtres, ont voulu séparer l'Église et l'État au moment où, aux États-Unis, au contraire, l'instrumentalisation du religieux à des fins politiques et l'instrumentalisation du politique à des fins religieuses renaît et revit, et on verra comment ça passe par Israël de façon tout à fait inattendue. Technique aujourd'hui, c'est donc ça, c'est à 17h lundi. Technique aujourd'hui, Mathias Alléon et Michel Thomas, réalisation Antoine Chao. Christophe Imbert, c'est le répondeur. 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Tout le reste, la musique et tout, c'est Yann Chouquet. Le France Inter, il va bientôt être 18h. Non, il n'est pas 18h encore. Il est 17h55. Et dans quelques secondes, vous allez avoir 1 minute 20 de pub. au bout desquels vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour le programme de la soirée. Il est 17h55 et 40 secondes.